Aujourd'hui, nous avons un culte un peu particulier. Un des rôles du conseil pastoral, tel que prévu dans les statuts de notre Église, est de veiller sur la direction spirituelle de notre Église. C'est une responsabilité importante et nous, le conseil pastoral, on ne le prend pas à la légère. Nous avons partagé avec le conseil de l'Église et ensuite avec l'ensemble de l'Église une démarche qui est centrée sur trois axes. Ça, c'était l'année passée. Et aujourd'hui, nous souhaitions partager avec vous quelques réflexions par rapport à ces trois axes. Donc, ces trois axes sont cheminer avec Dieu, et ce sera Marie qui va nous en parler. Ensuite, une église missionnelle, et ce sera Viviane. Le troisième point, vivre l'accueil, je dirai quelques mots. Et nous allons clore tout cela avec un moment de prière. Et ce sera Paul Rage qui va initier et diriger ce moment de prière que nous allons faire.
La Bible, Ancien et Nouveau Testament. Elle désigne le déroulement de l'existence humaine en fonction et en obéissance au commandement de Dieu. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le but à atteindre peut être la terre promise dans l'Ancien Testament ou le royaume de Dieu, le royaume des cieux dans le nouveau. Si les voies des hommes sont innombrables et souvent tortueuses, il n'y en a cependant qu'une qui mène dans la présence de Dieu. Et Jésus l'a dit très clairement, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Une porte, une seule, nous offre cette voie unique. C'est la foi en Jésus-Christ. La certitude qu'il est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu, pardonner nos péchés et que nous ayons la vie éternelle auprès de lui. Par notre baptême, ce moment où nous affirmons notre foi publiquement, nous nous engageons sur ce chemin. Chacun pour soi, sans être équipé, certainement pas. D'abord parce que Dieu, dans son amour, a tout prévu. Il nous a donné un livre d'images qui décrit notre itinéraire et nous nourrit. C'est la Bible qui contient la parole de Dieu. Et il nous a donné un guide pour nous précéder, nous diriger, nous prévenir lorsque nous dévions du chemin, éclairer notre route en nous expliquant la parole et nous rafraîchir d'eau vive. Et c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu en tant que croyants. Nous le portons dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit. Il suffit de l'écouter, ce que nous ne faisons peut-être pas toujours, pas suffisamment. Jésus, notre Seigneur et notre Maître, a aussi prévu que notre voyage terrestre ne se passe pas seul, mais en groupe, comme lorsqu'il cheminait à travers la Palestine avec ses disciples. C'est ça l'Église, c'est ça notre Église. Alors, en cas de fatigue, d'obstacle, de difficulté, nous pouvons nous entraîner, nous soutenir, porter les fardeaux les uns des autres. Chanter ensemble, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Remercier Dieu. Prier pour les beautés de la route, pour les beautés de Dieu. Mais aussi lui dire dans la prière nos peines, nos difficultés et nos joies. Nous pouvons en Église aussi partager tout ce que nous avons reçu, matériel et spirituel. En outre, dans sa clairvoyance, Dieu a distribué à chacun de ses enfants des dons particuliers, différents pour chacun. Paul en parle longuement. Et ces dons rendent notre Église multifonctionnelle, solidaire, interconnectée. C'est une force magnifique qui dépasse nos faiblesses individuelles. Et nous serions bien stupides de nous en priver en nous disputant ou en la quittant. Cheminer en Église nous permet en effet de persévérer en Christ. Dans la Bible, nous découvrons page après page que Dieu, Père ou Fils, fait ce chemin de la vie avec nous. Moïse et le peuple d'Israël avaient vu une colonne de fumée ou de nuée qui les guidait. Et Jésus a dit à chacun de ses disciples, « Suis-moi ». Ainsi, nous cheminons avec le Christ comme compagnon de voyage, comme les deux disciples qui se rendaient à Emmaüs après la crucifixion et la résurrection. Pouvons-nous alors nous exclamer comme eux, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Car c'est là le but de sa présence parmi nous, avec nous. C'est de réchauffer l'amour divin dans nos cœurs, de booster notre enthousiasme pour parler de la foi, nous encourager à tenir bon dans les difficultés. Mais attention, dire qu'il est avec nous, qu'il chemine avec nous, ne nous met pas sur un pied d'égalité avec lui. Bien sûr, il est notre ami, notre frère, mais il reste tout de même le maître, le Seigneur, à qui on doit obéissance et respect, parce qu'il connaît tout de nous, individuellement et de notre Église, le passé, le présent, l'avenir. Il sait quelle part il veut nous donner dans ses projets. Et il nous demande très clairement, d'un bout à l'autre de la Bible, de vivre et cheminer dans sa dépendance, en cherchant ses intentions, en l'écoutant. Pas de façon autonome, indépendante, pas en faisant confiance seulement à nos propres forces, à notre éducation, à nos moyens matériels ou intellectuels, à nos bonnes idées et nos initiatives, parfois déconnectées de sa volonté. C'est pourtant ce que moi, en tout cas, j'avais appris dans mon éducation, dans ma jeunesse. Mais nous devons nous appuyer consciemment sur lui, en lui faisant une entière confiance et en le consultant à toute occasion. Comme l'enfant qui marche à côté d'un adulte dont il se sent aimé en lui tenant la main, avec qui il bavarde. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il répond à nos vrais besoins et pas seulement à nos désirs du moment. Nous dépendons de lui en toutes choses. C'est pas facile à admettre lorsqu'on est adulte ou même lorsqu'on est responsable d'une église, mais c'est bien la vérité. Nous devrions donc y réfléchir et éviter deux pièges. Le premier piège, c'est de se ratatiner dans ses habitudes, de ralentir notre marche en pensant « Dieu y pourvoira ». On risque alors de s'arrêter en chemin, de se replier sur soi et de sombrer dans un coma spirituel. C'est vraiment pas le but d'une église. L'autre piège, c'est l'activisme. Emporté par l'enthousiasme ou par la crainte de ne pas voir nos besoins immédiatement réalisés, nous prenons le risque de foncer en avant sans faire les pauses si nécessaires de la prière en communauté, comme dans l'église primitive. Il y a de nombreuses occurrences dans les Actes. Nos décisions sont peut-être justes à vues humaines, mais elles risquent de ne pas correspondre au bon plan de Dieu pour notre Église. Cheminer dans la dépendance de Dieu, c'est accepter d'aller de l'avant, pas à pas, parfois sans bien savoir ce qui nous attend, mais avec l'entière certitude, avec la foi, que notre guide sait ce qu'il fait, sait ce qu'il nous fait faire, veille sur nous, même s'il nous laisse parfois trébucher ou nous fait changer soudain de cap. C'est ce que la Bible appelle « renouveler nos vies ». En conclusion, je vous laisse ce verset. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets sa confiance en lui, et il agira. » Je suis absolument convaincue que Dieu aime notre Église de Villars, qu'il a encore des projets pour elle et qu'ils se réaliseront en temps voulu. Mais c'est le temps de Dieu, pas le nôtre.
C'est vrai que nous avons parlé du premier axe, qui est à la fois une base et un domaine de progression certain pour nous. Il y a un deuxième qui a été défini, c'est celui d'être une église missionnelle inclusive. Alors ça paraît un peu du charabia, mais en fait, si on vous demandait de définir ce qu'est l'église, qu'est-ce que vous répondriez ? Alors il y a peut-être des expressions qui nous viennent à l'esprit, une famille, une maison, on peut aller pour certains peut-être jusqu'au club, qui organise des activités pour les membres. Il y a d'autres réponses peut-être qui font un peu plus spirituelles, un peuple dont Christ est le chef, un groupe de disciples qui cherche à devenir de plus en plus saints, un groupe d'envoyés témoins de Jésus. Alors c'est vrai que le terme missionnel qui est mentionné dans l'axe « être une église missionnelle inclusive », ce terme-là, on ne le connaît pas bien, on a l'impression qu'il fait un peu coquetterie de théologien, nouvelle idée à la mode. Ça peut être perçu comme ça, mais en fait, on est habitué à l'adjectif missionnaire ou au nom missionnaire qui renvoie souvent à des activités d'annonce de l'Évangile et en général plutôt à des populations qui ne connaissent pas encore l'Évangile, à des populations très éloignées géographiquement de nous. Et l'adjectif missionnel a été créé, c'est vrai qu'il est assez récent, pour définir la nature même de l'Église, son être, son identité, pas ses activités. L'idée, c'est que par nature, l'Église est envoyée dans le monde. Par nature, l'Église est une mission. Elle ne se contente pas d'envoyer des missionnaires, elle est une mission. Donc ça veut dire qu'elle doit avoir un impact sur le monde. Elle doit être révélatrice des réalités divines pour le monde qui l'entoure. Vous connaissez bien les versets de Matthieu 5, 13 à 16, mais je pense que je vais les lire quand même. Vous êtes le sel de la terre. Donc ça, il le dit, c'est Jésus qui le dit dans son discours sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc il est clair que du point de vue de Jésus, Dieu nous a placés, si nous sommes ses enfants, dans le monde, pour que sa lumière à lui soit visible à travers les simples êtres humains que nous sommes. L'Église n'existe pas seulement dans les murs. L'Église de Villars n'existe pas seulement au chemin des Fleurettes 35. Elle existe aussi en dehors des murs par le biais de ce que nous sommes, de ce que nous vivons à l'extérieur de ces murs. par le témoignage verbal ou du point de vue du comportement que nous pouvons donner de ce que Dieu est dans notre vie. Elle existe aussi dans des actions particulières d'annonce de l'Évangile, comme celle dont Pierre Glore se fait régulièrement l'écho auprès de nous. Et je dirais même qu'une église peut exister sans mur du tout. Il y a des églises qui n'ont aucun bâtiment, mais ça n'empêche pas que ce sont quand même des églises. Les murs rendent l'église visible, mais nous devons aussi veiller à ce qu'ils ne nous cachent pas et qu'ils ne nous enferment pas, ces murs de pierre que nous avons. Quand je suis arrivée en Suisse en 1982, j'avais 9 ans, ce qui m'a frappée en venant de France, c'est l'absence de barrières étanches entre ce qui était chrétien et ce que je vivais à l'école. Il y avait vraiment, je trouvais, des passerelles assez évidentes entre l'église, en l'occurrence protestante, et le monde scolaire, ou en tout cas il n'y avait pas de séparation claire et stricte comme j'avais pu le voir en France, où finalement j'avais presque peur de prononcer le nom de Dieu. Donc j'avais l'impression qu'une bonne partie de la population savait ce que c'est une église, savait ce que c'est la Bible, savait qui est Jésus, ce qu'étaient les valeurs chrétiennes. Si j'arrivais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je ferais le même constat. En 40 ans, finalement, pour beaucoup de gens, la Bible et le christianisme évoquent des notions beaucoup plus vagues. Ils ne savent pas forcément qui sont des personnages bibliques qui nous paraissent pourtant très connus, comme Abraham, comme Noé, comme Moïse. Et même Jésus n'est pas si connu que cela par tout le monde. Alors dans l'Église, nous avons tendance à employer un langage très biblique. Nous sommes forgés par... si nous sommes nés dans une famille chrétienne, nous sommes forgés quelque part au niveau de la mentalité, de la manière de nous exprimer, parce que nous avons l'habitude de faire et de dire. Nous parlons de racheter, nous parlons de gens prédestinés avant la fondation du monde. Nous rendons grâce pour la rédemption du sang de Jésus. Quand ce n'est pas l'agneau de Dieu qui a lavé nos péchés. Ce sont des termes que nous comprenons peut-être, mais que tout le monde ne comprend pas forcément. Parfois aussi nous disons que nous allons remettre le culte. Mais à remettre à qui? Qu'est-ce que ça veut dire, remettre un culte? Donc nos expressions peuvent être tirées de la Bible, mais parfois elles sont difficilement compréhensibles quand on ne connaît pas bien la Bible. Donc la question de ce que quelqu'un comprend quand il entre dans une église, j'ai trouvé intéressant qu'elle préoccupe aussi Paul quand il parle du parler en langue, qui est un don de l'esprit. Il en parle dans 1 Corinthiens 14, versets 23 à 26. Il dit « Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Et donc il encourage à apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue avec une interprétation. Donc, comme je l'ai dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Paul ne remet pas en question un don de l'esprit, mais il dit que ce don de l'esprit doit s'exercer de telle manière que ça puisse être utile pour tout le monde, et y compris pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. J'aimerais juste lire quelques... Donc voilà, nous sommes demandés avec le conseil pastoral quelle était la raison d'être de l'Église, et de l'Église de Villars en particulier. Nous n'avons pas envie de simplement faire tourner l'Église, de manière à ce qu'on puisse payer un pasteur et assumer des autres charges financières. Ce n'est pas le but, ce n'est pas un but en soi. Jésus n'a pas prévu que ses disciples devaient former un club d'initiés, et qu'ils s'entendent bien et se comprennent bien entre eux, mais que ce soit au point que ce soit impossible d'entrer dans ce club pour les autres. Il ne veut pas de barrière hermétique entre ses disciples et les autres. Il voulait au contraire que sa lumière à lui éclaire le monde par l'intermédiaire de ses disciples. Alors, je voulais juste vous lire quelques phrases de Daniel Lischke, qui est un petit peu un spécialiste de l'Église missionnelle et qui a donné une formation il y a un an dans le cadre de la FRE. Il dit « Dans l'approche missionnelle, l'Église n'est pas un endroit, mais une communauté de disciples. Ce n'est pas Jésus qui vient bénir et corriger mon royaume sans trop le changer. C'est moi qui, en tant que disciple, entre dans le royaume de Dieu et en fais ma priorité. » Beaucoup d'églises étouffent sous un nombre trop important d'activités sans que ces activités répondent à la mission que Christ nous donne. Donc c'est vrai que notre perspective, ça a été de dire on n'a pas forcément à multiplier des activités. Par contre, on a peut-être à repenser nos activités pour qu'elles incluent, d'où le terme inclusif, la possibilité pour des personnes qui sont en recherche, pour des personnes qui n'ont pas encore complètement fait la connaissance de Christ et de Dieu, pour des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à la Bible, si ce n'est rien, leur donner la possibilité de participer à nos activités, sans se sentir complètement largué, sans se sentir complètement perdu. Et donc ça veut dire que dans nos réflexions, dans la réflexion que nous avons sur nos activités, nous devons inclure ces personnes-là. Et voilà, c'est un des objectifs que nous avons vu comme nécessaire pour l'Église, une démarche, un axe de progression important. Alors c'est clair que le concept d'Église missionnelle ne se réduit absolument pas à cela, il y a des tas d'autres choses qui vont avec. Mais pour nous, c'est vraiment inclure le monde qui nous entoure dans notre réflexion, dans notre vie d'Église, que nous voulons mettre en avant. Tant que le Seigneur nous conduit sur cette voie-là. Nous ne voulons pas chercher à faire venir des chrétiens d'autres églises, mais nous voulons être conscients que la lumière de Christ doit briller à travers nous pour que des personnes qui ne le connaissent pas encore puissent le rencontrer. Que ce soit dans notre vie de disciple, en général, à la maison, au quotidien, ou bien dans tout le temps que nous passons à l'église, à l'intérieur des murs ou à l'extérieur des murs. Nous avons prévu un chant qui s'appelle « Tu es là » au cœur de nos vies. Il s'adresse à Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est la vie de Jésus-Christ en nous qui va nous permettre d'être cette Église qui accueille, qui inclut, qui brille. Alors merci de le passer. C'est vrai que c'est pas évident de chanter avec sur des projections YouTube, mais enfin on va au moins profiter des paroles.
Donc, le troisième volet, vivre l'accueil. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent à maintes reprises de l'accueil. L'accueil des autres membres de la communauté et de ceux qui viennent de loin, même d'autres nations dans l'Ancien Testament, mais qui se joignent à la communauté. L'accueil, qu'est-ce que c'est? Donc, l'accueil, le mot tel qu'utilisé aujourd'hui, comprend plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est la chose que vous avez vécue en venant ce matin, c'est face à quelqu'un qui arrive, et surtout des nouveaux arrivants, c'est de lui souhaiter la bienvenue et de faciliter son intégration. Un grand merci à l'équipe d'accueil de le faire chaque dimanche pour nous et pour ceux qui nous visitent. Pratiquement aussi dans notre Église, ça peut se traduire par des faits comme orienter la nouvelle personne vers des différentes activités, que ce soit des groupes de quartier, des ateliers bibliques, la prière et d'autres groupes, l'y accompagner pour qu'il ait vraiment courage de le faire et l'aider à faire connaissance des autres. Et ensuite, il y a tout un autre volet qu'on comprend aujourd'hui sous l'accueil et ça c'est l'hospitalité. Et ça, c'est un point très important dans, par exemple, le Nouveau Testament. Et il y a de nombreux textes qui nous appellent à exercer l'hospitalité. C'est ça qui soude finalement l'Église. Ce n'est pas d'entendre des bonnes prédications, la bonne théologie, d'avoir des réunions de prière, mais aussi de partager sa vie. L'épître que Paul adresse aux Romains inclut, à part des réflexions théologiques, des directives pratiques pour la vie de l'Église. Paul met, là, dans ce texte, Paul met accent sur amour, la compassion et les égards. Et au milieu de ce texte, Paul dit, et je lis au chapitre 12, le verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Donc, accueillir les autres de l'Église, c'est une chose importante. Et ce n'est pas que de dire « Bonjour, comment vas-tu ?» c'est de pouvoir aller aussi plus loin. L'Épître aux Hébreux reprend le sujet. Je dis chapitre 13, le verset 1 et 2. « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Donc, l'amour fraternel et l'hospitalité vont ensemble. Alors, Pierre en fait de même dans la dans son épître, dans la première épître de Pierre, et je lis verset 9 du chapitre 4, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Et Paul reprend le même sujet dans l'épître aux Timothée. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'Église. Et donc, l'accueil dans le sens moderne, de dire bonjour aux gens, de se préoccuper d'eux, mais aussi de nous accueillir mutuellement, à accueillir les nouveaux. Donc, on a une chose très importante dans la vie pratique de l'Église, mais est-ce que c'est une affaire de spécialiste? Ben oui et non. Et si on regarde comment c'est vécu dans notre Église, on le comprend facilement. Donc, j'ai mentionné l'équipe d'accueil. Merci à vous qui êtes toujours là, prêts à dire bonjour avec un grand sourire à tous ceux qui viennent, que nous sommes des membres ou que nous sommes des nouveaux. Mais ce n'est pas tout. Nous devons tous pouvoir accueillir des personnes. Et si nous voyons une nouvelle personne, il faut aller vers elle. Si possible, aussi la présenter à d'autres personnes de l'Église. Au pasteur, parce que c'est souvent apprécié, ou quelqu'un du conseil de l'Église, du conseil pastoral. Ensuite, nous avons une équipe qui, avec beaucoup de brio, organise des apéritifs, des cafés en temps normal, des repas après l'Église. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il ne suffit pas une équipe. D'abord, ils ont besoin d'aide, mais nous devons aussi tous y participer selon nos disponibilités. Ensuite, aussi, il n'y a pas que les repas à l'Église. Si nous le pouvons, je pense que chacun de nous devrait pouvoir exercer l'hospitalité à domicile. Quand Peter et moi, nous avons rejoint l'Église de Villars, c'était les années 70, nous étions frappés par l'accueil. Nous étions invités dans plein de familles, jeunes, moins jeunes. Et pour nous, c'était pas seulement la théologie de l'Église de Villars qui a fait la différence, mais cet accueil-là. Donc, je sais que nous sommes en plein Covid, mais essayons de réfléchir comment nous pouvons le faire. Ensuite, il y a le soutien mutuel. Nous avons un groupe très discret, mais qui aide ceux qui sont dans le besoin parmi nous. Et là aussi, c'est des spécialistes pour des bonnes raisons, mais nous tous, nous pouvons contribuer, prendre des nouvelles générales. On ne divulgue pas nécessairement tout, mais est-ce que vous avez besoin d'un soutien particulier, souvent financier ou autre? Ensuite, nous avons tous les groupes, qui sont parfois des groupes d'âge ou d'activité. Il y a la gerbe d'automne, il y a la couture, Dream Team, les jeunes familles. Et ça, c'est des groupes qui peuvent accueillir les uns des autres, vivre quelque chose en amitié, échanger sur des sujets qui sont importants, mais aussi intégrer de nouvelles personnes. Et ça, c'est extrêmement important. Après, nous avons des activités autres, comme le culte de l'enfance. Et là, effectivement, c'est une affaire de spécialistes. Nous avons un groupe hyper performant, des personnes qui font un programme excellent, mais à cause des disponibilités, ce programme ne peut avoir lieu qu'une fois par mois. Mais pour les familles, c'est important que nous puissions avoir un programme tous les dimanches. Alors, nous pouvons tous y participer selon nos besoins. Alors, ce matin, il y a un seul enfant dedans, et la personne qui s'occupe de cet enfant, c'est Jan Lehmann. Mais je parie qu'il a mis en marche le baby foot, ce que je n'ai pas arrivé à faire, et que les dimanches suivants, les enfants pourront en bénéficier. Donc, tous ceux qui sont à la maison, les enfants peuvent venir désormais. Il y a la garderie, où on essayera aussi de faire une permanence. Donc, à part cela, nous avons d'autres activités qui aussi peuvent servir d'accueil. Il y a le stand au marché. Typiquement, c'est les premiers contacts, mais qui peuvent accueillir des personnes qui sont dans la recherche via ce contact ensuite dans notre église. Nous avons les conférences sciences et foi. On a dû les interrompre, mais on espère de pouvoir au moins organiser une conférence selon si la situation sanitaire le permet. Là aussi, on peut inviter des personnes et ça peut être, mais il faut les entourer lorsqu'ils viennent. Lorsque des personnes qui ne font pas partie de l'église viennent, prendre contact, leur dire bonjour. Et ensuite, pour des personnes qui viennent à ces différents événements, s'ils veulent approfondir leur connaissance biblique, à les inviter aux ateliers bibliques et les accompagner, éventuellement discuter les points aussi en dehors de ces études. Alors, bien sûr, c'est un merveilleux programme, mais vous allez me dire tout ça s'est arrêté avec Covid et assez abruptement. Alors, bien sûr, comment faire dans cette situation? Nous devons absolument respecter les mesures sanitaires. Pour certaines activités, c'était facile d'aller online, pour les ateliers bibliques, grâce à Thierry, grâce à Viviane, on a pu le faire. Maintenant, pour les autres activités, nous devons nous adapter rapidement et aussi bien que nous pouvons pour à des changements de situation. Maintenant, lorsque nous avons des activités particulières, nous devons aussi pouvoir compter sur nous tous. L'équipe qui prépare quelque chose, une équipe spécialisée du Conseil de l'Église, doit pouvoir compter sur nous tous que nous les aidons. Et je pense qu'avec cela, nous allons pouvoir, malgré Covid, avoir un programme varié et faire l'accueil. Mais l'accueil n'est pas qu'une affaire de spécialistes, c'est une affaire de nous tous. Alors, nous aurons un prochain chant.